Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grand à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Plus besoin de passer à la caisse. À Seattle, aux États-Unis, les clients du supermarché Amazon Go n'ont rien d'autre à faire que remplir leur caddie. La technologie fait le reste. Le groupe a inauguré fin janvier un magasin entièrement automatisé. Plus de paiement à la sortie, des capteurs détectent ce que vous achetez. Votre compte est ensuite débité. Alors, un tel concept est susceptible de bouleverser le monde du travail dans la grande distribution. Non pas que l'automatisation y soit nouvelle. Les premières caisses sans caissière ont fait leur apparition en France au début des années 2000. Chez Auchan, on expérimente même depuis quelques mois la caisse tunnel. Il suffit de déposer ses achats sur un tapis roulant. La machine fait le reste. Mais jusqu'à présent, le métier d'hôtesse de caisse, bien qu'impacté, a plutôt bien résisté. Alors sera-ce encore le cas avec les magasins Amazon? Et d'ailleurs, faut-il craindre cette évolution? Après tout, le métier est pénible physiquement, les horaires flexibles, le temps de travail souvent partiel. L'automatisation peut être une chance de convertir ces emplois en des postes plus intéressants. Alors faut-il sauver les caissières de supermarché? C'est autour de cette question et pour une réflexion plus globale sur l'automatisation des emplois de service que nous allons discuter ce soir en compagnie de trois invités. Sophie Bernard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, maîtresse de conférences à l'Université Paris-Dauphine, chercheuse à l'IRISO. L'IRISO, rappelez-moi ce que c'est.
Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales.
Et vous avez publié un ouvrage chez Octares, c'était en 2012, Travail et automatisation des services, la fin des caissières. C'est une question que vous posiez. Pour discuter avec vous, Olivier Guivard. Bonsoir.
Bonsoir.
Secrétaire général de la Fédération Service à la CFDT. La CFDT, qui il y a un an avait lancé une action nationale, c'était parti justement des supermarchés Auchan, fier d'être hôtesse de caisse. Mais il y a eu d'autres mouvements d'ailleurs qui avaient été initiés par votre syndicat il y a quelques années de cela.
C'est pas la seule campagne. On avait eu un certain nombre dès le début des années 2000, puisque l'automatisation, comme vous l'avez dit, n'est pas un fait nouveau.
Voilà, puis vous nous direz justement si les campagnes ont évolué au regard des impacts de cette automatisation. Puis troisième invité, Nicolas Leroux, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste, expert au département Travail, Emploi, Compétences de France Stratégie. Vous avez signé une note, c'était en juillet 2016, l'effet de l'automatisation sur l'emploi, ce qu'on sait, ce qu'on ignore. Alors, je voudrais commencer avec vous, Sophie Bernard, pour nous raconter un petit peu votre expérience de caissière, puisque pour mener votre enquête, vous avez travaillé plusieurs mois dans un hypermarché. Est-ce que ce que vous avez découvert à l'époque correspondait à ce à quoi vous vous attendiez ?
Pas tout à fait, au sens où j'ai pris conscience de fait de la difficulté de la tâche de caissière et notamment difficulté au sens où j'appréhendais le métier de caissière comme une tâche extrêmement répétitive, ce qui est le cas, et en même temps une très forte difficulté à concilier logique de productivité industrielle, c'est-à-dire passer un certain nombre d'articles à la minute, et puis en même temps une logique de service, hein, c'est-à-dire maintenir des relations de service avec la clientèle, des injonctions qui peuvent paraître contradictoires et qui se révélaient difficiles à tenir au quotidien.
Si vous avez eu des difficultés, c'est parce qu'il y avait un déficit de qualification de votre côté, ou c'était plus le métier en tant que tel qui est compliqué, quel que soit son niveau d'expérience?
Alors, dans un premier temps, tout le monde ne peut pas devenir caissière, c'est-à-dire, enfin, en tout cas, il faut un temps d'apprentissage du métier, c'est-à-dire que tout ce qui nous paraît aller de soi quand on voit des caissières travailler, quand on essaie de s'y coller soi-même, il faut quand même un temps d'apprentissage pour réussir à mener sa tâche à bien. Et difficile aussi du côté dans les relations avec les clients, c'est-à-dire que les clients sont à la fois source de pénibilité au travail, on parle il y a de nombreux conflits en caisse, et en même temps c'est source de reconnaissance au travail, et les caissières, ils sont fortement attachés, elles disent toutes: moi je ne travaille pas à l'usine, je travaille dans le commerce, et c'est un motif de fierté.
Donc une partie de travail automatique, mais une autre partie assez importante, Olivier Guivarch, qui concerne justement les rapports avec les clients. Est-ce que ça fait de ce métier, de votre point de vue également, un métier qui est peut-être plus complexe que ce qu'on imagine ?
C'est vrai que Sophie Bernard a tout à fait raison. La CFDT a toujours dit que c'était un métier complexe. Il y a une ambivalence dans beaucoup de métiers. Dans celui-ci, l'ambivalence repose sur une addition de tâches répétitives avec une relation clientèle qui ne peut pas se réduire au seul paiement. Il y a interaction avec les clients et même en cas d'automatisation, on voit bien que le métier se transforme, mais il reste une relation client. Il y a du contrôle, il y a de l'orientation, de l'aide, de l'assistance, de l'accompagnement. Ça demande des compétences sociales qui s'ajoutent à des compétences techniques.
Est-ce qu'on peut dire, en tout cas Nicolas Leroux, que la part de tâches répétitives est importante dans un métier comme celui des caissières, et plus ce métier va être susceptible d'être automatisé? On verra si c'est le cas ensuite, parce qu'il n'y a pas forcément un lien toujours absolu, mais en tout cas, est-ce que c'est au moins une des conditions pour automatiser un métier?
Les économistes à France Stratégie, on a travaillé sur le sujet, il y a différentes manières d'arriver à estimer le potentiel, en tout cas la probabilité qu'un métier soit automatisé. Effectivement, il y a le caractère répétitif qui arrive tout de suite à l'esprit. Mais si on pense notamment au travail de David Autor, qui est un chercheur du MIT, lui a plutôt mis en avant 4 caractéristiques qui permettent de décrire ce que David Autor met en évidence, et finalement l'avantage comparatif qu'a encore l'homme sur la machine. Pour lui, ce sont les interactions sociales, c'est la flexibilité, l'adaptabilité et la résolution de problèmes. À France Stratégie, donc, on a réalisé une étude pour essayer de voir et d'estimer ce potentiel d'emploi qui peuvent être automatisables, parce que à l'époque donc, où l'étude France Stratégie est sortie, il y avait 2 chercheurs de l'université d'Oxford qui avaient publié un papier qui avait une conclusion qui était très alarmiste, selon laquelle 47% des emplois aux États-Unis avaient un risque élevé d'être automatisés. Donc ce chiffre était celui qui a fait le plus grand bruit, a été très médiatisé.
Jusqu'à récemment, hein, d'ailleurs, hein, puisque tout le débat autour du revenu universel portait aussi beaucoup là-dessus, hein, c'est-à-dire sur la disparition massive d'emplois du fait de l'automatisation qui justifierait ce revenu universel. Je vous laisse poursuivre.
Exactement, et à France Stratégie, donc, on a essayé de challenger ce papier académique qui a forcément, comme tout papier académique, des limites. Et nous, en utilisant une autre méthodologie, on arrive plutôt à un résultat que 15% des emplois seraient automatisables. L'OCDE, avec une méthode un peu différente, obtient 10%. Le Conseil d'orientation pour l'emploi également une dizaine de pourcents. En deux mots, très rapidement, le papier de Frey Osborne, les 2 chercheurs de l'université d'Oxford, eux s'intéressaient au métier. Et pour eux, un métier, c'était binaire, soit il est automatisable, soit il n'est pas automatisable. Et tout l'intérêt des papiers, notamment de France Stratégie et de l'OCDE, c'est d'aller à un niveau plus fin, de s'intéresser aux tâches qui composent les métiers, savoir s'il y a des tâches qui sont automatisables ou non.
Alors, justement, de voir avec Sophie Bernard et Olivier Guivarch qu'on ne pouvait pas avoir une approche binaire de ce métier des caissières de supermarché, est-ce que du coup, on constate que cette automatisation, Sophie Bernard, elle a peut-être moins progressé qu'on ne l'imaginait du fait de la complexité de ces métiers?
En fait, ce qu'on observe, c'est que il y a d'une part une destruction de l'emploi et en même temps une recomposition du travail. Destruction de l'emploi au sens où vous avez de fait une caissière qui va superviser plusieurs caisses à la fois, enfin plusieurs clients qui s'activent sur des caisses, et en même temps une recomposition du travail au sens où il y a des fortes proximités entre l'automatisation dans l'industrie et l'automatisation dans les services.
Mais cette automatisation, est-ce qu'elle progresse autant que ça? J'ai lu dans la note de Nicolas Leroux. Alors ça date de 2012, le chiffre que vous évoquiez à l'époque. 3,5% des terminaux de caisse en grande distribution sont des caisses en libre-service. Alors ça a sans doute progressé depuis 5 ou 6 ans, mais ça n'est pas non plus une automatisation massive.
C'est vrai qu'il n'y a pas de déterminisme technologique. Ce n'est pas parce qu'un dispositif technique existe qu'il va être mis en œuvre et étendu partout. De fait, la technologie a un coût, il y a un risque de conflits sociaux, il peut y avoir des résistances de la part de la clientèle. Donc c'est vrai que les distributeurs n'ont pas autant développé que ça finalement l'automatisation des caisses, mais aussi ce qui s'est passé, c'est que ça s'est fait de manière assez invisible, au sens où l'implantation des caisses s'est opérée à chaque fois au moment de l'implantation de nouvelles grandes surfaces. Alors il y en a de moins en moins en France, le territoire national est couvert, mais mais aussi à l'occasion d'agrandissements de magasins. Donc ça ne veut, les caisses automatiques ne venaient pas se substituer aux caisses dites classiques, mais venaient s'ajouter. Et on profitait aussi du départ des caissières pour ne pas les remplacer. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre, on ne va pas lancer des plans sociaux, mais en revanche, on va profiter du turnover en caisse. On ne va pas remplacer les CDD, on ne va pas remplacer les départs en retraite. Donc ça s'est fait, finalement, il y a destruction de l'emploi, c'est aussi pour ça que c'est difficile de le quantifier, mais l'implantation reste encore aujourd'hui, malgré tout, marginale.
C'est votre avis également, c'est ce que vous constatez, Olivier Guivard ?
C'est un des regrets de la CFDT de constater qu'on a du mal à anticiper cette arrivée du progrès technologique. On aurait aimé avoir plus d'études au niveau de la branche de la grande distribution alimentaire ou d'autres branches où il y a automatisation, ou en tout cas recherche de progrès d'automatisation. Et le maître mot, c'est anticiper. Pour anticiper la transformation des métiers, puisqu'il n'y a pas que destruction, il y a aussi création d'emplois. Pour anticiper cette transformation, il faut d'abord regarder quels sont les progrès techniques, quels progrès techniques on met en œuvre. Pour l'instant, on assiste plutôt à un tâtonnement, des scanettes, des tunnels. Les technologies ne sont pas les mêmes suivant les enseignes ou parfois d'un magasin à l'autre. Il faut pouvoir l'anticiper. Il faut pouvoir aussi anticiper le nombre d'emplois concernés de manière à ce qu'on puisse accompagner les salariés et les informer au préalable. Et c'est ça que la CFDT regrette.
Quand vous dites, voilà, justement, que vous regrettez, est-ce que ça veut dire que vous regrettez peut-être que ce processus d'automatisation ne soit pas davantage répandu et accompagné, ou bien est-ce que on peut aussi considérer que vous pourriez vous satisfaire que cette automatisation-là, même si elle est en partie dissimulée, comme nous l'expliquait Sophie Bernard, reste encore aujourd'hui marginale?
Alors, on n'est pas dans une situation binaire où la CFDT serait pour ou contre l'automatisation. On assiste à une transformation des métiers, mais les métiers se transforment un peu partout. Et en plus, il faut différencier la question de l'emploi de la question du travail. C'est ce que je pense, ce que voulait dire aussi Sophie Bernard en disant que
voilà, sur l'emploi, on est plus sur la quantité, voilà, sur le travail, on est plutôt sur la qualité et sur le sens qu'on donne à ce qu'on fait.
Les tâches peuvent disparaître, certaines peuvent évoluer, et puis la question de l'emploi, c'est différent. Mais ce que je voulais surtout dire, c'était que pour anticiper ces transformations et pour anticiper les conséquences des progrès techniques, il faut du dialogue social pour que, institutionnellement, on puisse discuter avec les employeurs, avec les décideurs qui introduisent le progrès technique, de manière à ce que les formations qui soient proposées et de manière à ce que les salariés puissent s'informer et anticiper pour construire leur avenir.
Pour anticiper aussi, il faut aussi avoir des données suffisamment fiables qui permettent à ceux qui ensuite sont en mesure de décider d'aller vers plus ou moins d'automatisation, de prendre des décisions, justement, Nicolas Leroux.
Effectivement, donc. Sur le nombre de caissiers, il y a assez peu de données encore actuelles. Les seuls chiffres qu'on a pu trouver à France Stratégie, ce sont les chiffres qui viennent du ministère du Travail français, où on arrive à avoir l'évolution du nombre d'emplois de caissiers sur longue période. Et le chiffre qu'on obtient, c'est qu'on regarde au cours des 10 dernières années, ce nombre de caissiers a diminué de 10%. Donc il resterait encore en France à peu près 185 000, 190 000 caissiers en France. Donc ça, c'est effectivement le point de vue quantitatif sur les chiffres.
Si on reste justement sur cette approche quantitative, est-ce qu'on peut dire que par rapport à d'autres secteurs qui sont confrontés également à l'automatisation dans le secteur dans les services, c'est plutôt faible, 10%, c'est plutôt important?
Il y a deux manières de répondre à cette question. Soit on regarde vraiment dans le passé lointain, et par exemple, si on s'intéresse aux destructions d'emplois, on a par exemple en tête les agriculteurs. Le nombre d'agriculteurs et même d'ouvriers a vraiment diminué en France. Et on voit qu'au cours des 30 dernières années, le nombre d'agriculteurs et d'ouvriers a diminué, pareil, d'une dizaine de pourcents. Donc ça, que finalement la structure de l'emploi en France se modifie, qu'il y ait des créations et des destructions d'emplois, ça on sait faire. Après, quand on s'intéresse aux métiers plus proches dans le service, donc on voit les caissiers, on voit que le nombre de caissiers a diminué de 10%. Ce qui est étonnant, c'est quand on regarde des métiers qui sont assez proches du métier de caissier, donc par exemple les métiers au péage autoroutier ou les métiers de pompiste aussi, qui ont également avaient une notion de service, mais aussi une action d'encaissement, on voit que finalement, des métiers qui seraient assez proches ont pu avoir des évolutions très, très différentes. Le nombre de personnes dans les péages a vraiment diminué. Chez les pompistes, il y a aussi une diminution assez forte des effectifs. Mais on a du mal, même en regardant les exemples du passé, à dire comment ça a évolué dans le futur. Parce que, par exemple, pour le pompiste, on peut imaginer que finalement, ça peut être un service qui est désormais davantage attendu par le client. Le service, l'accompagnement. Et ça, on a du mal à prédire et à dire comment les métiers qui, pourtant proches, ont des évolutions très, très disparates.
Alors justement, restons sur cette comparaison entre le métier au péage sur les autoroutes, péage devenu très majoritairement automatique, et puis le métier de caissier ou de caissière en supermarché, enfin en grande surface. Sophie, comment est-ce que vous, à partir de l'étude qui a été la vôtre, vous expliqueriez ces différences d'évolution?
Alors, cette différence d'évolution, on peut l'expliquer par l'attachement aux caissières de la part des clients. Parce que finalement, ce dont on s'aperçoit, c'est vrai qu'on appréhende les grandes surfaces comme un univers extrêmement froid ou avec peu de sociabilité. En réalité, quand on mène l'enquête, on s'aperçoit finalement qu'il y a des clients qui sont attachés à leur caissière.
C'est plus difficile de s'attacher à quelqu'un qui est dans une guérite sur une aire d'autoroute. On ne sait jamais sur qui on va tomber.
Voilà. Là, on peut entretenir une relation de longue durée. Alors, et finalement, c'est parfois pour certaines personnes le seul contact, le seul lien social qui va se nouer dans une journée. Donc, on va avoir des résistances aussi de la part des clients de ce côté-là. Donc, c'est la raison pour laquelle, à l'heure actuelle, on a plusieurs dispositifs de caisses en grande surface, une articulation qui reposerait sur une adaptation aux différents profils de clients qui se rendraient en grande surface.
Je me disais qu'il y avait peut-être aussi un autre élément qui est celui de la facilité ou de la difficulté à faire des gestes que faisaient autrefois des professionnels. C'est-à-dire quand on passe un péage d'autoroute, quelle que soit sa voiture, c'est toujours le même geste. Quand on passe par exemple à une caisse automatique, tout dépend si son caddie est à moitié plein, totalement plein. Et en fonction du travail qu'on va devoir effectuer à la place des caisses, ici, Olivier Guivarch, on va peut-être faire des choix différents, soit de rester vers une caisse automatique, soit de retourner vers une caissière, disons, traditionnelle.
Ça prouve en tout cas que le métier est bien plus complexe qu'on ne le croit, et qu'il faut prendre le temps d'écouter les salariés dans les entreprises, parler de leur travail et aussi les laisser agir sur leur travail. Je pense qu'on a là...
Ils disent quoi les salariés justement dessus? Ils disent il faut maintenir ces emplois-là?
On a plutôt des questions autour des conditions de travail. C'est-à-dire que là aussi, il ne faut pas avoir un raisonnement binaire. C'est comment améliorer les conditions de travail. L'automatisation n'est pas forcément la disparition de pénibilité. Ça peut faire naître de nouvelles pénibilités, de nouvelles conditions de travail difficiles. Quand on passe d'un encaissement à une surveillance, ça peut rendre stressant le métier.
C'est-à-dire qu'on passe d'une pénibilité physique à une pénibilité psychologique.
Oui, psychologique, et puis ça peut provoquer des contentieux auxquels on n'est pas habitué, ce qui là aussi laisse entendre qu'il faudra former les salariés au litige, former les salariés à la médiation, puisqu'ils vont contrôler les clients qu'ils vont encaisser par eux-mêmes.
Nicolas Leroux.
Oui, pour en revenir aux questions des télépéages, il faut aussi voir que c'est une stratégie d'entreprise, parce que pour un véhicule, si le nombre de lignes qui sont en télépéage augmente, forcément la probabilité pour que le véhicule aille dans cette ligne augmente également. Et donc le geste, l'apprentissage, le fait de passer, ça va permettre de diffuser plus largement le nombre de lignes automatiques. Et là, cette question, c'est est-ce que dans les grandes surfaces, dans les magasins de distribution, est-ce que les entreprises vont faire le forcing ou en tout cas faire mobiliser le plus de caisses automatiques pour inciter l'expérience des clients vers les caisses automatiques. Et ça, alors que pour les lignes d'autoroute, on peut dire que les entreprises avaient la stratégie, elles avaient la main, c'est encore un petit peu différent dans les grandes surfaces.
Bah justement, c'est quoi la stratégie dans les grandes surfaces, Sophie Bernard? Est-ce que c'est d'abord réfléchi comme une façon de faire des économies, c'est-à-dire de faire baisser le coût du travail, ou bien est-ce qu'il y a l'idée aussi d'accompagner une évolution technologique et peut-être aussi un rendu de service qui serait différent parce qu'amélioré au client?
Finalement, quand on regarde, ce qui est intéressant, c'est d'observer les évolutions de la grande distribution. Et finalement, on retrouve les mêmes principes, c'est-à-dire un processus de rationalisation de caisse, en caisse en particulier, et surtout un idéal de fluidité. L'idéal dans la grande distribution, pour les distributeurs, c'est l'adéquation parfaite entre le nombre de caisses ouvertes et puis l'affluence de la clientèle. Une adaptation parfaite.
Il ne faut pas qu'il y ait de temps mort, enfin de temps qui ne serait inoccupé, voilà, par quelqu'un qui est en caisse, c'est ça?
Oui, il ne faut pas de temps improductif. Et donc, ils se sont dotés d'outils pour prévoir justement ces variations, mais il y a toujours des formes d'imprévisibilité. Et l'automatisation des caisses peut être un outil supplémentaire justement pour assurer cet idéal de fluidité, au sens où si vous avez tout d'un coup une forte affluence de la clientèle, vous pouvez ouvrir avec une seule caissière quatre caisses. Et donc, faire face à ce pic d'affluence. Et donc, on voit que ça s'inscrit dans cette continuité d'idéal de fluidité en caisse.
En même temps, j'imagine que quand on est économiste, faire un lien entre automatisation et productivité, c'est pas totalement, comment dire, à côté de la plaque, Nicolas Leroux.
Le lien entre automatisation et productivité est effectivement pas à côté de la plaque, mais même le lien entre automatisation et emploi n'est pas si simple que ça. Parce que si on prend un autre exemple dans les services qui sont les métiers de la banque, on prend l'exemple de l'arrivée des distributeurs automatiques de billets. Une étude qui avait pu être faite aux États-Unis, c'est que finalement, quand les distributeurs automatiques de billets sont arrivés aux États-Unis, on pouvait craindre une diminution des emplois. Mais c'est pas ce qu'on observe. Finalement, le nombre d'emplois a été stable. Pourquoi ? C'est parce que grâce au distributeur automatique de billets, finalement, le coût d'exploitation d'une agence a diminué, ce qui a incité les filiales bancaires à augmenter le nombre d'agences et à avoir un maillage plus important sur le territoire. Et là, toujours si on reprend l'exemple des caissiers, on peut se poser la question, est-ce que ça va arriver aussi ? Et finalement, est-ce que automatisation et emploi, le lien de destruction qu'on voit naturellement au premier effet, finalement, est-ce que ça va être un effet négatif sur l'emploi, en tout cas à court terme ? Là, on ne peut pas être certain en regardant les expériences du passé.
Ça va peut-être dépendre de ce qu'attendent et de les clients et de la façon dont ils réagissent. Je voudrais vous faire écouter un reportage qui date d'il y a une dizaine d'années. On est en mars 2007, donc on est dans les premières années justement de ces caisses automatiques. C'est Philippe Lefébure qui, pour France Inter, s'était rendu dans un magasin Auchan. On cite encore Auchan parce que manifestement, c'est ceux qui sont un petit peu pionniers, disons, en matière d'automatisation. À Issy-les-Moulineaux, en banlieue parisienne, à l'époque, les clients sont équipés, mais ça existe toujours, de petits pistolets et qui leur permettent de scanner leurs articles.
C'est comme un petit pistolet, un scanner, et donc vous scannez vous-même vos produits.
Ouais. Au fur et à mesure, quand vous les mettez dans votre panier.
Quoi. Voilà, exactement. Et après, ça va largement plus, puisque du coup, il n'y a personne aux caisses. Il y a un gain de temps énorme.
Ils sont nombreux et plutôt ravis, les clients qui, pistolet en main, passent de rayon en rayon. Et pas seulement les fans de technologie, les mamans également manient l'instrument plutôt bien.
Il n'y a aucun prix marqué, donc avec le pistolet, j'ai immédiatement le prix. Donc là, je vois que c'est trop cher, je le repose, je le supprime et j'en prends un autre. Voilà.
Il y a quelques erreurs sur les étiquettes au rayon fruits et légumes. Des fois, on n'arrive pas à trouver la bonne étiquette. Bon, après, il faut faire la demande en caisse quand on arrive en caisse. Et puis eux, ils ont le code produit pour y récupérer ça. Donc.
En fait, les plus grosses pertes de temps arrivent quand un caddie est contrôlé. Là, c'est retour à l'ordinaire, il faut tout déballer en caisse.
Là, ça prend du temps, voilà. Si on est devant quelqu'un qui a un caddie rempli, là, on perd tout le temps qu'on a gagné en fait en scannant. Mais bon, ça arrive assez rarement, c'est raisonnable.
Ça vous plaît comme système ?
Oui. D'ailleurs, je suis assez surprise que ça ne soit pas encore généralisé sur la France, parce que bon, ça me paraît quand même être un gain de temps appréciable.
Un reportage qui date d'il y a 10 ans, donc signé Philippe Lefébure, Olivier Guivarch. Est-ce que les témoignages de clients qu'on entend, ils vous paraissent un peu datés, ou bien est-ce qu'on pourrait entendre les mêmes choses aujourd'hui, ou bien peut-être qu'il y a une espèce, comment dire, de retour d'expérience qui fait que les clients sont peut-être moins, comment dire, impressionnés par cette technologie?
On voit qu'en 10 ans, quand même, les choses n'ont pas beaucoup avancé. On parle d'acceptabilité sociale, c'est-à-dire le fait que le consommateur accepte ou pas un progrès technique ou une automatisation, là en l'occurrence. Ce qui est sûr, c'est que les distributeurs, les entreprises font très attention. Elles doivent garder les consommateurs, elles doivent garder leurs clients. On assiste à un vrai tâtonnement. La technologie qui va s'imposer, pour l'instant, n'est pas arrivée. Ce n'est pas sûr que ce soit l'autoscan, c'est-à-dire le fait de scanner soi-même les produits. Peut-être que ce sera le tunnel. Mais rien n'est fait, rien n'est joué. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on est dans une recherche de la meilleure technologie qui soit. Et c'est pour ça que, pour la CFDT, c'est maintenant qu'on doit discuter de ces différentes technologies pour à la fois regarder les conditions de travail que ça induit et les transformations des métiers.
Mais est-ce que ça veut dire que ça passe aussi pour vous par une sensibilisation des consommateurs et pas uniquement de ceux qui travaillent dans ces grandes surfaces ?
Alors on sensibilise les consommateurs, on le fait depuis des années à la CFDT avec nos campagnes, on distribue des jetons de caddie, on rappelle aux consommateurs qu'ils sont aussi des citoyens. On le fait dans nos campagnes pour sensibiliser les consommateurs au travail dominical, au travail en soirée et aussi à l'automatisation, bien sûr. Mais c'est quand même dans l'entreprise.
Qui va peut-être avec d'ailleurs, hein, plus il y a d'automatisation, oui. Plus il y a de flexibilité dans les horaires, non ?
Oui, on peut l'imaginer, mais c'est quand même dans l'entreprise que ça va se jouer. C'est-à-dire que il y a deux terrains d'action pour la CFDT. Le terrain de l'entreprise, ça va être le terrain des conditions de travail qui vont évoluer, des métiers qui vont se transformer. Mais aussi des différentes interactions que les uns et les autres vont avoir dans l'entreprise. Et puis, il y a la question, plus généralement, du modèle économique. Pour l'instant, le modèle de l'hypermarché est déstabilisé. C'est peut-être durable. D'ailleurs, un grand groupe annonce la réduction de ses surfaces.
C'est Carrefour, et, la location, puisque j'ai cité l'autre.
La location-gérance, qui est une manière aussi de se débarrasser d'un certain nombre de salariés. Et ça veut dire que les surfaces vont se réduire. Si les grandes surfaces se réduisent, peut-être qu'il y aura moins d'automatisation, parce que dans des petites surfaces, on n'est pas forcément gêné par un passage en caisse, puisqu'on a peu de produits à acheter.
Sur la question du pouvoir qui peut être celui du client, du consommateur, Sophie Bernard, d'abord, c'est quoi ce pouvoir ? Est-ce que c'est en tout cas quelque chose, l'acceptabilité sociale, qui est un élément important par rapport à ces processus d'automatisation, en l'occurrence pour le métier de caissier de supermarché ?
Alors ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'en effet, quand on interroge des clients, ils vont vous faire part du gain de temps qu'ils connaissent quand ils passent en caisse automatique. Et en réalité, un certain nombre d'études ont démontré qu'ils sont beaucoup plus lents que toute caissière professionnelle. Mais ils ont simplement le sentiment de ne pas perdre leur temps parce qu'ils sont actifs. Donc c'est vrai qu'il y a une satisfaction, mais ça ne veut pas dire que finalement ils gagnent du temps. Et finalement, ça ne veut pas dire que les files d'attente vont se réduire. Donc en termes d'acceptabilité sociale, il faut voir un peu sur la durée ce que ça peut donner.
Est-ce qu'il peut y avoir aussi des démarches d'ordre éthique, c'est-à-dire de consommation qui vont faire le choix de passer, quoi qu'il arrive, auprès d'une personne, comme à une époque, peut-être que certains allaient dans les péages où il y avait des personnes à l'intérieur et refusaient d'aller vers les péages automatiques.
Alors, certains, en effet, vont considérer qu'il s'agit d'un acte politique, que l'acte de consommation est un acte politique, mais c'est vrai que ça reste extrêmement marginal, finalement. La plupart des gens passent en caisse automatique.
Nicolas Leroux ?
Sur ce point, effectivement, je pense que c'est plutôt le fait que les technologies sont nombreuses et sont encore très disparates, ce qui fait que la diffusion des technologies et que l'acte de passer dans une caisse automatique est plus amène beaucoup de questions par rapport aux clients. Et je pense que c'est actuellement le principal frein. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les technologies, toutes les marques, toutes les enseignes essayent de développer leur propre technologie. Amazon Go avec un système sans contact, d'autres enseignes avec des caisses tunnels, d'autres avec des caisses automatiques avec scan. Et là, je pense que c'est vrai, cette multiplication des technologies, finalement des gestes que les clients doivent apprendre et maîtriser. Et s'ils ne le maîtrisent pas tous, ils se posent la question de soit on va vers une caisse où il y a effectivement un caissier qui va faire le travail, ou soit on va nous-mêmes faire le travail avec tout le risque d'avoir des problèmes techniques et d'assurer. Donc je pense effectivement que c'est plutôt ça le frein actuellement et pas encore et pas vraiment une question politique, même si pour certains c'est vraiment un motif essentiel.
Est-ce qu'on ne peut pas imaginer en tout cas qu'en termes de développement et de stratégie, certaines enseignes vont faire le choix justement de miser sur le service en disant bah voilà, chez nous, il y a des vraies personnes qui vous servent, il y a des vraies personnes qui vous encaissent. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut commencer à voir? Olivier Guivarch a évoqué la réduction de la surface des hypermarchés qui peut conduire à ça, mais est-ce que ça peut être aussi une stratégie totalement assumée? Moi, pour juste faire mentionner une petite expérience, alors purement empirique, mais j'étais assez surpris, je veux dire, quand je suis allé aux États-Unis, de constater, par exemple, alors, et dans les magasins, et dans un certain nombre de lieux publics, le nombre de personnel beaucoup plus important, me semble-t-il, qu'en France, pour des actes qui seraient ou qui sont automatisés aujourd'hui chez nous. Sophie Bernard.
C'est là, on retrouve la question de l'absence de déterminisme technologique, au sens où les dispositifs techniques ne suppriment pas de manière automatique les emplois. Parce que ça relève aussi du choix des distributeurs qui peuvent en effet opter pour le développement de services au sein des grandes surfaces. Donc ça va être par exemple en effet aux États-Unis, ce qui va se passer c'est que vous avez des personnes qui viennent remplir vos sacs, tout simplement. Ou alors qu'il y a des personnes qui sont là dans les rayons pour vous conseiller, pour vous accompagner en cas de problème. Donc de fait, ça relève du choix des distributeurs que de réinjecter des services à d'autres endroits, en fait.
Ces évolutions-là, on les voit aujourd'hui en France, Olivier Guivarch, c'est encore extrêmement, ténu, réduit?
Pour l'instant, on ne peut pas comparer hein, les États-Unis avec la France en matière de services qui sont proposés dans les magasins. L'expérience est un peu différente.
Mais c'est-à-dire que le modèle de l'hypermarché, c'est vraiment qu'un modèle très français. Hein.
Oui, mais j'insiste sur le fait que le modèle est en train de changer. Que le modèle de l'hypermarché n'est pas le modèle unique et que on parle d'un secteur hyper concurrentiel qui recherche différents modes de vente. Il y a les drives, il y a la vente, la livraison à domicile et là on voit aussi qu'il y a des différences culturelles. En Grande-Bretagne, on va moins facilement être livré on va plus facilement être livré à domicile, tandis que en France, on n'hésitera pas à aller chercher ses courses dans un drive. Et dans un drive, il n'y a ni caisse automatique, ni hôtesse et hôte de caisse, puisque finalement l'acte d'achat s'est fait sur Internet et on vient chercher ses produits. Je pense qu'on assiste, la CFDT constate bien qu'on assiste à une redéfinition de la vente de biens alimentaires. Avec des opérateurs, des distributeurs qui tâtonnent et qui cherchent tous les modes de vente possibles.
Le modèle d'Amazon Go, donc avec cette possibilité, avec une carte que l'on scanne, si j'ai bien compris, à l'entrée du magasin, on fait ses courses, on remplit son caddie, on ressort avec et on est débité automatiquement. C'est pas forcément à voir comme une révolution, parce que c'est un petit peu comme ça aussi que ça a été présenté il y a quelques jours de cela, Nicolas Leroux, mais c'est une évolution parmi d'autres à laquelle est confronté le secteur des services aujourd'hui.
C'est effectivement une des évolutions. Amazon, la société Amazon, fait effectivement beaucoup d'annonces sur le fait que ce magasin, c'est un magasin, ce qu'il faut bien voir, c'est un magasin sans file d'attente, sans encaissement. Mais c'est pas pour autant que c'est un magasin sans emploi. Déjà, ça, le lien entre les deux, il faut bien cerner la différence. Après, Amazon Go, ça a été quand même testé pendant plus d'une année, une année et demie, sur finalement des employés de la société Amazon, qui eux étaient des cobayes volontaires. En gros, ils se comportaient bien dans le magasin. Ils ont fait les tests, ils ont pu être appuyés, ils étaient conscients. Et là, c'est seulement depuis quelques jours que le magasin Amazon Go est ouvert au grand public. Et là, les difficultés vont peut-être également être plus nombreuses parce que finalement, l'acte d'encaissement n'est finalement qu'un seul des actes qu'on réalise en grande distribution. Il y a le conseil, il y a l'approvisionnement, il y a la simple question de vol, enfin la surveillance, le contrôle, l'assistance. Et pour toutes ces raisons, il ne faut pas voir que le magasin Amazon Go va être un magasin sans emploi.
Alors quand il y a du conseil, et quand il y a du conseil en rayon, par exemple, c'est quelque chose qui est très visible et on peut constater quand on est client que ces emplois-là existent. Mais est-ce qu'un des problèmes de l'automatisation, Sophie Bernard, mais vous l'évoquiez d'ailleurs brièvement tout à l'heure, c'est pas celui du caractère invisible d'un certain nombre de métiers qui continuent d'exister, mais dont on ne se rend plus vraiment compte de l'existence ou de l'utilité d'ailleurs, hein, quand on a ces caissières. Alors je sais pas d'ailleurs si elles sont toujours hôtesses de caisse, celles qui en contrôlent plusieurs, parce qu'on est à des bornes automatiques, je ne sais pas comment il faut les appeler.
Elles s'appellent toujours hôtesses de caisse.
Mais c'est vrai qu'on les voit moins et on les considère moins,
oui,
aussi.
Oui, complètement. En fait, on pourrait même mettre en évidence la contradiction entre justement une invisibilisation du travail d'un côté et en même temps une intensification du travail. Et c'est là le paradoxe. C'est-à-dire que d'un côté, on a intensification du travail, c'est-à-dire que les caissières doivent superviser plusieurs clients qui s'affairent sur des caisses. Chacun les sollicitant en fait fréquemment parce qu'ils rencontrent un certain nombre de soucis en caisse et qui les sollicitent simultanément et qui attendent de leur part une réponse immédiate. Ils sont extrêmement exigeants. On leur a vendu le fait que on pouvait passer rapidement en caisse, donc d'un côté intensification du travail, en tout cas ils le vivent comme tel, et puis c'est là où c'est proche de l'industrie au sens où ça suppose de leur part une vigilance permanente, elles doivent être attentives à tout ce qui peut se passer en caisse. Et de l'autre côté, en même temps, paradoxalement, invisibilisation du travail, parce que ce travail est réalisé en coulisses, de manière distante. Elles vont supprimer un article quand elles voient un client qui en passe deux, par exemple, mais à distance, le client ne s'en aperçoit pas. Donc cette contradiction, elle est difficile à vivre parce que justement, les clients n'hésitent pas à leur dire « finalement, vous ne servez à rien, c'est moi qui accomplis votre travail ».
Oui, donc il n'y a même pas le côté gratifiant du travail, on ne s'en rend pas compte. Vous parlez de vigilance permanente, mais est-ce que vous, par exemple, quand vous avez été caissière, donc pour les besoins de votre enquête, vous n'étiez pas aussi tenu à cette vigilance permanente? Ou bien est-ce que vous aviez quand même la possibilité, en étant en caisse, sur une caisse classique, de vous ménager quelques temps de pause?
Oui, alors c'est toujours des micro-temps de pause, hein, c'est-à-dire que moi j'évoque le passage d'un régime temporel séquentiel à un régime temporel simultané, c'est-à-dire séquentiel, on passe les clients les uns après les autres. Et il y a des petits moments de pause, au sens où quand le client est en train de régler, vous avez un moment de respiration.
Quand il met beaucoup de temps à régler son caddie, ce qui nous énerve tous les samedis, hein, quand c'est celui qui est devant.
Et elles peuvent parfois d'ailleurs faire en sorte de passer rapidement les articles, hein, pour s'accorder quelques secondes supplémentaires. Ce n'est plus possible en caisse automatique, au sens où elles doivent veiller à ce que les clients, justement, n'en profitent pas pour voler des articles, sachant qu'ils élaborent des stratégies assez assez complexes, finalement. Et puis, ils rencontrent des soucis, donc elles doivent être en état de vigilance permanente pour y répondre.
Je vais citer un extrait d'un article excellemment titré « Caisse Investigation » que j'ai trouvé sur le site de la CFDT, c'est grâce à vous, hein, notamment Olivier Guivarge, que j'ai pu le lire, et qui cite le témoignage de Daniel, qui travaille à l'hypermarché de Boulogne-sur-Mer depuis plus de 20 ans, et qui explique justement qu'elle a été affectée justement sur ces postes automatisés. Elle dit, l'article dit, les hôtesses qui sont affectées à la supervision des automates le sont seulement 2 heures par jour maximum, parce que c'est très très dur.
C'est pourquoi la CFDT veut continuer à agir sur les conditions de travail. Il est clair qu'elles vont évoluer, ces conditions de travail, avec l'introduction de nouvelles technologies, d'où l'importance d'avoir des représentants du personnel formés, syndiqués, qui ont la capacité d'agir sur le travail, de discuter du travail avec les managers, avec les employeurs, dans des commissions qui sont adéquates et dans lesquelles on peut vraiment changer le travail. Parce que c'est en changeant le travail qu'on change la société.
Et d'ailleurs, juste d'un mot, dans ce métier où il y a quand même beaucoup de temps partiel, est-ce que c'est facile de mobiliser les personnes qui travaillent, qui attendent peut-être d'avoir davantage d'heures, d'avoir un CDI, et qui du coup vont peut-être être moins à même, comment dire, de se défendre et de se syndiquer?
Ça, c'est toutes les inquiétudes que nous avons. La CFDT agit aussi pour limiter le temps partiel, ou en tout cas fixer un plancher. C'est grâce à la CFDT qu'on a aujourd'hui un plancher à 24 heures, mais qui est plus important dans la grande distribution, parce qu'on a quand même pu négocier un plancher plus important. Ce qui nous inquiète aussi, c'est tous ces salariés qui ont du mal à mobiliser leurs droits pour se former, pour anticiper les évolutions technologiques. Il va falloir améliorer l'accès aux droits. notamment pour les salariés les moins bien formés ou en tout cas qui ont une formation initiale faible.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Olivier Guivarch, Nicolas Leru et Sophie Bernard. Je renvoie également à l'enquête BD Encaissée qui a été publiée il y a quelque temps chez Casterman, une enquête de la sociologue Marlène Manquet que vous connaissez, je crois, Sophie Bernard, avec les dessins d'Anne Simon sur ce travail justement de caissière de supermarché. Merci beaucoup à toute l'équipe du Grain, Fanny Richer, Antoine Tricot, Virginie Leduo, Antoine Dulster et Prune Saez. Émission réalisée par Véronique Villa avec à la prise de son Bruno Gagnère, Fontanille.